Sainte Marie du Lac, sœur de Notre-Dame, 1867. Emplacement, angle Union et King Street. En 1867, les sœurs de la congrégation de Notre-Dame achètent un lot de terre sur King Street West pour établir une école pour filles, connue comme St. Mary of the Lake. Quelques années plus tard, les sœurs abandonnent l'école pour déménager plus au centre-ville. St. Mary of the Lake reste inoccupée jusqu'en 1904, lorsque les sœurs de la Providence achètent l'établissement et le transforment quelques années plus tard en orphelinat. En 1929, St. Mary of the Lake est agrandie pour accueillir plus d'orphelins. Durant la Deuxième Guerre mondiale, 1939 à 1945, l'établissement devient provisoirement un hôpital militaire. En septembre 1946, il redevient un hôpital pour malades chroniques. Montreal Tavern, début du 19e siècle, ou Taverne de Montréal. Emplacement, coin nord-ouest des rues William et Wellington. Description. Ce lieu est aussi connu sous le nom de Old French Tavern. Elle aurait été érigée juste avant la guerre de 1812 ou dans les années suivantes. L'un des premiers propriétaires était un émigré français, Picard, que l'on surnommait le Comte. Cette taverne était largement fréquentée par les soldats français. Il s'agissait d'une structure à deux étages dont la charpente était décousue avec une véranda qui longeait la rue Wellington. Un escalier descendait directement à la rue. Cet établissement fut fréquenté par plusieurs politiciens, dont John A. Macdonald, qui a d'ailleurs prononcé quelques discours depuis le balcon. Le vieil immeuble n'existe malheureusement plus. Cathédrale Saint-Joseph, 1808. Emplacement, coin nord-est Bagots et William. Description. La première église catholique de Kingston du régime britannique est construite en 1808 par le maçon François-Xavier Rochelot à l'angle des rues William et Bagot. Il s'agit aussi de la toute première église construite en pierre de la ville. Son clocher est orné d'un coq en métal. Elle reçoit la bénédiction de Monseigneur Plessis du Québec en 1816 et porte d'abord le nom de Saint-Joseph pour être renommée plus tard Saint-Isidore. L'abbé Rémy Gollin de Québec est le premier curé de Saint-Joseph en 1811. Les habitants surnomment l'église la French Church, car elle est fréquentée par plusieurs francophones. Elle sert notamment d'hôpital pour des soldats pendant la guerre de 1812. Elle est malheureusement démolie en 1891. Couvent Notre-Dame, 1846. Emplacement, coin sud-est des rues Bagot et Johnson. Description. Cet édifice a abrité le couvent des sœurs de la congrégation de Notre-Dame de 1846 à 1967. En 1841, deux sœurs enseignantes de la congrégation, sœurs Saint-Alexandre et Saint-Édouard, arrivent à Kingston à la demande de Monseigneur Rémy Gollin, alors évêque de Kingston. D'autres membres de la congrégation les rejoignent dans les années suivantes. Elles logent d'abord dans des chambres exiguës, dans un bâtiment de la rue Earl, et finalement en 1846, elles s'installent dans le palais épiscopal de la rue Johnson. Le bâtiment est habité par les sœurs de la congrégation Notre-Dame jusqu'en 1967. Aujourd'hui, cette structure fait partie de la Kingston Public Library. Hôtel-Dieu et Sœurs de la Providence, 1845. Quatre religieuses hospitalières de Saint-Joseph arrivent de Montréal en 1845 pour fonder le nouvel hôpital Hôtel-Dieu. Il s'agit de la mère Amable Bourbonnière et sœur Louise d'Avignon, Huguette Claire Dufour et Émilie Barbary. Les premiers patients sont accueillis le 12 septembre 1845 dans un petit établissement au 229 Brock Street. L'Hôtel Dieu ne cesse de prendre de l'expansion durant les années suivantes et doit faire face à une épidémie de typhus en 1847. Plus de 100 enfants laissés orphelins par l'épidémie sont accueillis dans l'hôpital et doivent vivre entassés, parfois deux ou trois pour un seul lit. C'est en 1892 que l'Hôtel Dieu déménage dans ses nouveaux locaux sur Sydenham Street. Plusieurs ailes sont construites au siècle suivant. Maison de François-Xavier Rochelot, 1808. Emplacement. 68 Princess. En 1808, François-Xavier Rochelot se construit une maison en pierre de 2 étages, aux dimensions importantes. Il cisèle ses initiales et la date 1808 sur la pierre au coin de la maison. Une annexe est ajoutée à l'arrière, de même qu'une construction plus basse pour le matériel roulant. Cet atelier abrite maintenant le restaurant chez Piggy. Plus tard, dans les années 1840, ce bâtiment a abrité les bureaux de John A. Macdonald et Alexander Campbell. Horsey, 1945. Le maçon François-Xavier Rochelot est venu de Trois-Rivières pour s'installer à Kingston dans les années 1790. Il est nommé agent de la paix en 1802 et contribue notamment comme maçon aux aménagements autour de la cathédrale Saint-Georges et du palais de justice. Il participe aussi à la construction de la première église catholique de Kingston en 1808, l'église Saint-Joseph. Fort Frontenac, 1673-1758. Emplacement. Le Fort Frontenac est situé à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent et du lac Ontario. Du premier bâtiment, il ne reste que quelques vestiges déterrés récemment. Le gouverneur de Courcelles, après une expédition de 10 jours, arrive à l'entrée du lac Ontario le 12 juin 1671 et découvre la région de Cataraqui. C'est l'emplacement idéal pour établir un fort pour la défense du territoire de la Nouvelle-France, le futur fort Frontenac qui deviendra plus tard Kingston. Courcelles, avant même de voir son projet se réaliser, est remplacé en 1672 par un nouveau gouverneur, Louis de Buade, comte de Frontenac. Ce dernier a fermement l'intention d'étudier le projet de son prédécesseur, de juger de l'importance stratégique de l'endroit et de voir s'il est possible d'y construire un établissement qui défendrait la mission des suspiciens dans la baie de Quinté. Tout comme son prédécesseur, Frontenac voit en ce lieu les conditions idéales pour construire un fort. Un poste d'observation, un port abrité, du bois de chauffage et des terres cultivables. Le 20 juillet 1673, une première habitation est érigée. En août 1673, Frontenac confie le fort Cataraqui à l'explorateur Cavalier de la Salle et lui concède une seigneurie aux alentours, avec l'obligation d'assurer la défense du fort. Ayant fait venir des artisans, des maçons, des charpentiers et un forgeron de Québec, La Salle fait démolir et remplacer les premières fortifications de bois de Frontenac. Il fait ériger un autre rempart flanqué de bastions, doublant l'envergure de la première forteresse. 3 murs de pierre de 12 pieds de hauteur et une palissade de bois complètent la structure, en plus des nouvelles habitations à l'intérieur, d'une chapelle, d'un puits et d'une vacherie. On creuse une douve de 3 verges de large et un fossé qui traverse la péninsule. En 1755 et 1756, face à une menace des Britanniques, les gouverneurs Duquesne et Vaudreuil envoient successivement des troupes à Fort Frontenac. Le général Montcalm envoie au printemps 1756 des ingénieurs pour ériger de nouvelles défenses. 2 ans plus tard, à l'été 1758, des troupes britanniques menées par le lieutenant-colonel John Bradstreet se regroupent pour attaquer le fort Frontenac. Apprenant cela, Vaudreuil dépêche un détachement de 1500 soldats et miliciens menés par le capitaine François Duplessis Faber. Mais ils arrivèrent trop tard. 3000 hommes de Bradstreet attaquent déjà le fort. Le 28 août, le fort se rend aux Britanniques. Malgré que Duplessis Faber ait repris le fort inoccupé, celui-ci est abandonné par l'armée française, jugé indéfendable par son état et son emplacement. Avec le traité de Paris de 1763, Cataraqui appartient désormais à la couronne britannique. Maison de Olivier Thibaudeau, début du 19e siècle, et Thibaudeau's Inn. Pendant les guerres napoléoniennes, 1802 à 1815, qui oppose la France et la Grande-Bretagne, un blocus continental est imposé à cette dernière à partir de 1806. Elle se tourne alors vers ses colonies, dont le Canada, pour s'approvisionner en bois pour la construction navale. À la même époque, la colonie se prépare à faire face à une possible invasion américaine le long des frontières. À Kingston, les industries navales et du bois emploient des ouvriers canadiens-français. Olivier Thibaudeau est constructeur de navires. Avec la fin de la guerre en 1815, il devient hôtelier et ouvre le Thibodeau's Inn à l'angle sud-ouest des rues Wellington et Barrack. Olivier Thibodeau meurt vers 1820. Sa femme prend alors la direction de l'hôtel. La maison qu'il a habitée existe toujours au 162 Mowat Street. Maison de la Providence, orphelinat et chapelle, 1861. Emplacement, îlot entre les rues Bay, Montreal, Ordnance et Sydenham. Les Sœurs de la Providence de Montréal sont venues s'établir à Kingston sous la demande de Mgr Oran, successeur de Mgr Phelan, en 1861, pour s'occuper des pauvres, des vieillards et des malades. L'épidémie de typhus avait fait beaucoup de ravages et l'Hôtel-Dieu avait besoin de renforts. Deux religieuses, Mère Philomène et Sœur L'Ange Gardien, arrivent à Kingston accompagnées de quatre missionnaires et une journalière. Elles s'installent dans un ancien mess d'officiers situé à l'angle des rues Montréal et Ordnance et y fondent un hospice accueillant orphelins, pauvres et infirmes. Ces sœurs doivent toutefois faire face à plusieurs problèmes d'appauvrissement durant les durs hivers et plusieurs sont rappelées à Montréal par leur communauté. Mais dès 1871, d'importants progrès sont accomplis. On bâtit un foyer pour personnes âgées, une aile à l'hospice et une chapelle en 1898. Picardville, fin du 18e siècle. Emplacement entre les rues York, Division et Raglan. En octobre 1798, des nobles et d'anciens officiers français qui ont fui la Révolution arrivent avec leur famille à Kingston, avec à leur tête le comte de Puisaye. Ils sont près d'une soixantaine et s'installent entre les rues Princess, Division, Raglan Road et Berry, secteur qui prend provisoirement le nom de Picardville ou Village français. Mais peu à peu, ces immigrants rentrent en France après la Révolution, redoutant les vigueurs et les rigueurs du climat et de la vie des colons au Canada. Mais un certain Joseph Vallière, tonnelier et propriétaire de plusieurs lots, reste à Kingston. Église Saint-François d'Assise. Même s'il existe des églises catholiques à Kingston avant les années 1950, dont St. Mary's, elles n'assurent pas de service pour les francophones. Très catholiques, les membres du Club Champlain, club de francophones, sont aussi très conscients que l'Église catholique a été une force qui a assuré la survie de la langue et de la culture française au Québec. Le groupe fait des démarches auprès du recteur du Collège des Jésuites de Régiopolis de Kingston pour que les francophones puissent être reçus dans leur chapelle les dimanches pour y ouïr la messe. Le collège accepte et chaque dimanche, il y a un serment en français. En 1958, il faut changer pour la chapelle des Sœurs de la Providence, plus spacieuse. Mais le club désire une réelle paroisse catholique française, menée par un prêtre francophone. L'archevêque de Kingston, Mgr J. A. O'Sullivan, accepte de faire une demande auprès des autres évêques et reçoit une réponse positive. Le 26 juillet 1958, l'abbé Henri Perron de Boniface vient s'établir à Kingston. La messe est célébrée pour la première fois le 3 août à la chapelle des Sœurs de la Providence et le 26 août se forme une association des dames auxiliaires. Il y a rapidement une formation d'une chorale, d'un chœur d'enfants et des cours de catéchisme. Les autorités ecclésiastique donne le nom de Saint-François d'Assise à la paroisse pour commémorer la chapelle Saint-François construite par les Récollets en 1675 au fort Frontenac. Un fonds est constitué pour la construction d'une nouvelle église et la paroisse réussit à amasser plus de 10 000 dollars. L'église Saint-François d'Assise, située au 512 rue Frontenac, reçoit la bénédiction de Mgr O'Sullivan le 12 mars 1961. Tout comme l'abbé Perron, les autres prêtres qui le suivent, dont l'abbé Roson et le père Wallen, sont très impliqués dans la création de classes et d'écoles françaises et travaillent souvent de concert avec les autres organisations sociales francophones, comme le Club Champlain. Aujourd'hui, le père Bob est le prêtre de l'église Saint-François d'Assise. Centre culturel Frontenac. Le projet d'un centre culturel francophone est initié par le Club Champlain. En 1965, le club commence à louer la salle paroissiale de Saint-François d'Assise pour en faire un petit centre récréatif. Lorsque Robert Sabourin arrive en 1976 et rencontre les divers groupes francophones, il prend conscience de la nécessité de créer un service de coordination qui fera le lien entre les divers organismes de la région. On crée donc en janvier 1978 une liaison française qui réunit le Club Champlain, le Club francophile, les Louveteaux éclaireurs, les jeunes adultes, Queen's University, le CMR, l'école cathédrale, etc. Il ne s'agit pas de centraliser la gestion de ces organismes, mais de leur permettre de se consulter, d'organiser des projets et de se concerter sur les différents problèmes. La liaison française prend le nom de Centre Frontenac. Le premier comité d'administration est formé au printemps 1978 par Guy Vérot, Pierre Laforêt, Napoléon Gauthier, Vincent Pinault et Gilles Ouellette. De la salle paroissiale, le Centre Frontenac déménage dans les locaux du International Hockey Hall of Fame à l'angle des rues York et Alfred. En janvier 1982, il fait face à un surplus de travail pour le nombre de bénévoles et élabore donc une demande de financement au secrétaire d'État pour l'emploi d'une personne professionnelle permanente qui administrerait les dossiers et les projets. Le centre a en plus besoin d'un local stable, d'une maison qui reflèterait davantage une ambiance conviviale et familiale. Il achète finalement la maison de Rosaire et Yvette Julien, située au 520 rue Frontenac. Le nouveau centre est inauguré le 6 novembre 1983. La maison comprend deux salons, le salon Brisebois et le petit salon. Une cuisine, une salle de loisirs, un bureau de secrétariat pour le centre Frontenac et l'ACFO, une salle d'artisanat et un atelier de bricolage. Gabrielle Gosselin est embauchée comme première secrétaire à temps plein. Son mandat est d'unir, coordonner et servir la communauté francophone, ainsi que mettre en commun et se doter de ressources humaines, techniques ou financières mises à la disposition des organismes et des concitoyens francophones. En 1996, le Centre culturel Frontenac déménage dans les nouveaux locaux du Centre scolaire communautaire, centre qui loge également l'École secondaire catholique Marie-Rivier et le théâtre L'Octave. École secondaire Marie-Rivier. Le projet de centre scolaire communautaire est lancé en 1989 par le Centre culturel Frontenac. Le projet initial est la conception d'un centre de services accessible à tous les francophones de la région, qui serait aussi associé à une véritable école secondaire française, indépendante, qui lierait les secteurs publics et séparés. Dès le départ, l'Association canadienne-française de l'Ontario, l'ACFO, de la région Mille-Îles, appuie fortement le projet. Un représentant de chaque organisme membre du Centre Frontenac doit siéger dans un seul et même comité de travail pour étudier le projet. La faisabilité du projet est confirmée en 1991 par une étude réalisée par la firme Réal Leroux et Associés, qui évalue les coûts à peu près 10 millions de dollars. Mais la firme estime également que le projet va créer plusieurs emplois et stimuler l'économie locale, alors qu'on est en période de récession. L'ACFO Mille et le Centre Frontenac sont chargés de présenter le projet aux élus politiques régionaux. De leur côté, les deux conseils scolaires ont fait des demandes de subventions pour la construction d'une école secondaire et c'est la commission des écoles séparées qui obtient la première approbation pour l'école Marie-Rivier. En 1992, l'école secondaire française Marie-Rivier est encore à l'état de portative sur le site du collège Régiopolis. Cela ressemble un peu à des maisons mobiles dont les toilettes sont situées dans l'édifice principal de Régiopolis. Cette année-là, l'école reçoit une subvention de 7 200 000 dollars du ministère de l'Éducation pour la construction du centre scolaire communautaire. Une campagne de levée de fonds pour la partie communautaire du projet est aussi organisée par l'ACFO Mille-Îles le 23 février 1993. L'objectif est de 300 000 dollars. L'ACFO provincial se met aussi de la partie en rédigeant des lettres d'appui au projet destinées au gouverneur fédéral. Celui-ci fournit au centre scolaire un premier montant de 592 000 dollars pour la construction de la partie communautaire. Le gouverneur provincial offre quant à lui 572 000 dollars pour cette même partie. Les travaux de construction ne peuvent attendre plus longtemps que la commission scolaire publique obtienne sa subvention et finalement une entente de partenariat est conclue entre les deux commissions. Le conseil des écoles séparées entreprend alors des démarches pour obtenir le site Dolan Mills, une ancienne usine de photographie, pour y aménager le centre scolaire communautaire. Mais le conseil municipal s'oppose à l'achat du terrain situé en zone industrielle près de l'autoroute 401, presque à l'extérieur de la ville. Un long processus de négociation s'étend de 1994 à 1995 et l'ACFO, dans ses fonctions intermédiaires habituelles, appuie fortement la cause du centre auprès des autorités municipales. En juin 1994, le chef du Bloc québécois, Lucien Bouchard, intervient lui-même publiquement pour dénoncer l'entêtement de la ville de Kingston dans son opposition au projet. Il a été scandalisé par les installations des portatifs de Marie-Rivier et juge inacceptable qu'on puisse laisser des étudiants dans de telles conditions. En septembre 1994, le gouvernement fédéral accorde 400 000 dollars supplémentaires pour la construction d'un théâtre. Le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture de l'Ontario recommandent aussi au gouvernement provincial d'investir encore 813 000 dollars, ce qui fut accepté. La levée de la première pelletée de terre est faite le 5 décembre 1995. Les élèves de Marie-Rivier débutent leurs cours dans les nouveaux locaux du 711 avenue Dalton le 3 septembre 1996. La cérémonie d'ouverture officielle a lieu le 26 avril 1997. Le conseil scolaire public n'ayant pas reçu la subvention, il doit renoncer pour le moment au grand projet d'école secondaire française. Mais l'école secondaire publique Mille-Îles loge depuis 1996 au sein de l'école KCVI, tout en restant autonome, et éprouve des problèmes d'espace avec le nombre grandissant d'inscriptions et l'impossibilité d'avoir de nouveaux locaux. Les salles ne possèdent pas de fenêtres sur l'extérieur et sont mal éclairées. De plus, les étudiants francophones ne se sentent pas toujours bien accueillis. L'ACFO Mille-Îles offre son soutien au conseil scolaire public pour trouver un nouvel endroit où déménager et pour trouver des fonds nécessaires. Elle écrit notamment au ministère de l'Éducation et aux députés locaux pour les convaincre de l'urgence du déménagement. S'étant concertés sur 4 possibilités de sites, les parents, les élèves et le personnel optent pour le site de Calvin Park sur Van Order Drive. La nouvelle école secondaire Mille-Îles ouvre ses portes à l'automne 1999.